Que c'est beau de savoir, c'est toujours, moi ça me fait toujours du bien de comprendre que nous sommes à Montélimar, nous sommes dans la Drôme, dans l'Ardèche, mais qu'en fait le peuple, ah ouais, je vais prendre ça ce matin, ça me fait un peu bizarre d'avoir cette grosse chair alors que mes frères et sœurs sont assis par terre, la chair est faible. par contre, si quelqu'un a vu ma Bible, je suis preneur, j'ai une grosse Bible blanche de mariage où il y a écrit la Bible dessus, si vous l'avez vu dans la salle, je suis preneur, elle est là? Génial, merci. Elle était là. Tout va bien, tout est sous contrôle. Alors, waouh. Eh bien, écoutez, les amis, sans transition, en fait, tout ça est intimement lié. Mais vous savez que ça fait plusieurs mois, d'ailleurs, qu'on sent Dieu nous parler sur la simplicité, sur revenir à l'essentiel. J'ai eu la chance de pouvoir écouter le message d'Éric Bourgeois sur le site, parce que j'étais pas présent le jour où il a prêché. Et où il disait, ben, on va revenir à la simplicité, on va revenir à Jésus. Et en fait, on a discuté en équipe et on a vraiment eu cette conviction vraiment de pas passer à autre chose, mais de rester avec Jésus. Et du coup, on va commencer aujourd'hui une série de messages sur l'évangile de Matthieu. Oui, ça paraît, je ne suis pas très très objectif dans le choix de cet évangile. Je vous le concède. Je ne sais pas si j'ai été guidé involontairement par rapport à ce prénom, qui est magnifique, mais voilà. Donc, ben vous savez quoi, je vous propose de prier encore une fois. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cet évangile que tu nous as laissé, Seigneur. Merci pour tous les livres qui composent ta parole. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ce cadeau précieux de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous, change nos cœurs ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Donc si vous avez vos Bibles version papier, je vous invite à l'ouvrir ben, au premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Et bien sûr, l'Évangile de Matthieu, vous savez, il y a 28 chapitres, c'est un livre de la Bible qui est très long. C'est impossible de tout couvrir, même en une série d'enseignements, il faudrait un an ou deux pour y arriver. Donc on va se focaliser sur certains passages particulièrement. Ça va, les coccyx sont ménagés, tout va bien, personne n'a trop mal, tout va bien. Merci les amis, c'est trop beau en tout cas. Merci pour votre courage, bon, même si vous n'avez pas trop le choix. Mais je me suis assis, il y avait des chaises vides, mais je me suis assis par terre hein, quand même, par solidarité. Donc voilà, l'évangile de Matthieu. Et du coup, petite introduction sur l'évangile de Matthieu. Donc Matthieu, l'auteur bien sûr, était juif. Éduqué et lettré, la tradition la plus ancienne attribue bah, ce livre à ce fameux Matthieu, le Matthieu des douze, le Matthieu des douze disciples que Jésus a appelé. Il avait un autre prénom. Qui c'est qui connaît son autre prénom? Lévi, génial. Lévi. Et en fait, ce Matthieu, vous le savez, était bah, collecteur d'impôts. Il travaillait pour le trésor public hein, de l'Empire romain. Et donc, c'était quelqu'un de voilà, vraiment lettré, très intelligent. Mais un jour, il entend parler et il voit ce Jésus. Il voit ses miracles, notamment à Capernaum où il habitait, ce paralytique être guéri. Et quelques jours ou quelques instants après ça, Jésus passe devant lui et l'appelle à le suivre. Et Matthieu ben, quitte tout, quitte son travail, quitte sa prospérité, quitte tous ses grands principes pour suivre ce Jésus, ce prophète. Et c'est pour ça que c'est vraiment, il est inspirant ce Matthieu. Il a beaucoup de choses à nous apporter au travers de ce livre. Et du coup, son évangile, en fait, il est vraiment destiné au peuple juif. C'est un évangile qui se tourne vraiment vers son peuple, les Juifs, et qui s'articule autour de cinq grands discours. Donc je vais vous passer les cinq grands discours, mais vous les connaissez la plupart très très bien. Le premier, c'est le serment sur la montagne. Donc on aura l'opportunité la prochaine fois d'être sur le serment sur la montagne. Mais il y a aussi le discours de Jésus qui envoie ses disciples, vous savez, deux par deux. Pour ceux qui étaient au cinéma dimanche dernier, pour regarder la série The Chosen, c'est ce qu'on a pu voir. Et en fait, Matthieu, ce qui est vraiment fort, c'est que tout au long de l'évangile, il s'attache à sans cesse faire le lien entre Jésus, qu'il est en train de suivre, et les prophéties de l'Ancien Testament, données pendant des centaines d'années, qui mentionnaient Jésus, qui mentionnaient l'avenir d'Israël, le royaume de Dieu. Et Matthieu, vous le verrez, fait toujours ce lien, toujours, toujours. Mais c'est pour ça que c'est pour nous aussi très important d'étudier cet évangile parce que via Matthieu, on a accès vraiment à la tradition aussi, plus qu'à la tradition, aux racines hébraïques de notre foi chrétienne. Amen. Donc j'avance parce que je veux vraiment vous donner les choses les plus importantes. Aide-moi, Seigneur. On va commencer tout simplement par cette généalogie. Et cette généalogie, je pense que vous êtes tous comme moi. On fait la Bible en un an. On est plusieurs dans l'Église à faire la Bible en un an. Et c'est régulier dans la Bible, en fait, qu'il y ait des généalogies. Et souvent, quand on commence une généalogie, c'est sûr que ce n'est pas la partie la plus excitante du livre. On les lit parce qu'on sait que c'est la parole de Dieu et que c'est bon pour nous. Donc on le lit, mais souvent c'est dur de percer vraiment l'intérêt de pourquoi on a ces listes de noms dont certains sont prononçables. Si on osait appeler nos enfants avec ces prénoms, on pourrait se retrouver en prison. Mais ce n'est pas grave, on sait que c'est bon pour nous. Donc on le lit, mais quand même, dans la généalogie de Jésus, j'ai moi-même, en étudiant des choses que je savais, d'autres que j'ai découvert là, découvert plein de choses super intéressantes que je vais vous partager maintenant. Donc, comment commence l'évangile de Matthieu ? Il commence par cette phrase-ci au verset 1. « Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. » Donc ça, c'est pour la version « Semeur ». C'est toujours important de savoir dans quelle version on lit, parce qu'en fait, si vous lisez dans le grec, j'ai été voir dans le Nouveau Testament traduit en grec, et en fait, littéralement, en grec, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, donc, voici la généalogie, donc littéralement, le livre, il est dit en grec, le livre, donc Biblos, de Genèse de Jésus. En fait, il y a une traduction qui est un peu altérée. On nous a mis le mot généalogie, mais en fait, le mot grec, c'est le mot genèse. Et ça, c'est hyper intéressant. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Matthieu choisit d'utiliser le mot genèse. Regardez bien, on est dans le premier livre du Nouveau Testament. Et il y a ce livre Genèse qui apparaît. Et bien sûr, à quoi nous fait penser le mot genèse ? Il nous fait penser à la Genèse, évidemment. Donc, merci pour ceux qui suivent. Donc, au premier livre de la Bible, la Genèse, le commencement. Et ça, c'est énorme parce que Matthieu, au travers de l'utilisation de ce mot, c'est loin d'être anodin. Il veut nous faire comprendre que là, il est en train de parler d'une histoire d'un homme qui représente le nouveau commencement, la nouvelle Genèse. Jésus, l'héritier de toutes ces promesses de l'Ancien Testament, Et du coup, que c'est un nouveau commencement. Tout devient nouveau, tout devient possible parce que Jésus est né. Ça y est, les promesses en parlent tant. Ça y est, il est là. Une nouvelle création. Et en fait, Jésus, il nous est dit, est comme un nouvel Adam. Le premier Adam a chuté. Le péché est entré dans le monde. Mais maintenant, nous avons un nouvel Adam. Un nouvel Adam. Attention, il arrive. Mais il est dit donc Jésus Christ, Christ. Donc pour les plus jeunes, ou peut-être si vous ne le savez pas, Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. On ne dit pas bonjour monsieur Christ, enchanté, moi c'est Matthieu, non. Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la traduction, pareil, grecque. Vous savez que la Bible a été traduite en grec il y a très longtemps. Et en fait, le mot hébreu qui s'y rapporte, c'est le mot... Qui sait ce que c'est le mot ? Yeshua. Alors Yeshua, c'est Jésus. Mais Christ, c'est le Messie, le Mashiach, comme on dit en hébreu, le Messie. Et qu'est-ce que ça veut dire, le Messie ? Ça veut dire loin. Et en fait, dans l'Ancien Testament, il y avait des rois, bien sûr, il y avait aussi des prophètes et des prêtres qui étaient loin. Et en fait, Jésus, il représente un peu la quintessence de ces trois rôles-là. Il est un roi, il est un prêtre. Et il est un prophète. Et les prophètes annonçaient un Messie. Et vous savez que les Juifs, en fait, les Juifs, j'y reviens juste après, mais ils ont souvent été dans l'oppression. Si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, il y a de très très longues périodes d'oppression, d'esclavage, ils sont envoyés en exil. Et puis ils ont aussi plein de rois vraiment mauvais. Donc ils sont sans cesse sous l'oppression. Et en fait, du coup, les Juifs, ils grandissent avec cette idée qu'un jour, un libérateur va venir, le Messie, le oint d'Israël. Sauf que dans leur idée, il s'agit plus d'un Messie politique ou même guerrier. Et il se trouve que Jésus naît sous l'Empire romain, donc encore sous une autre domination. Et au moment où, où plusieurs se mettent à croire au Messie, ils pensent que c'est quelqu'un qui va les délivrer des Romains. Je pense que c'est l'idée qui est même dans ces 12 disciples au début qu'ils rencontrent Jésus. Mais bien sûr, nous avons un peu de recul là-dessus et nous savons que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Il se manifeste sur la terre, mais il est bien plus large que la terre sur laquelle nous sommes. Amen. Et du coup, on voit que voilà, Israël qui lutte en permanence pour sa survie, et ben voilà, c'est l'actualité nous rattrape et on voit que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Juifs sont toujours en train, pour beaucoup, d'attendre la venue de ce Messie. C'est pour ça que c'est important de prier pour eux, ben, pour leur sécurité, pour leur subsistance. Bien sûr, de ne pas oublier ceux qui souffrent de l'autre côté de la frontière aussi dans nos prières. Mais aussi de prier pour que le Messie se révèle à son peuple Israël, ainsi bien sûr que à leurs voisins avec qui les relations sont si difficiles. Amen. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'il est écrit ? De la descendance de David, la suite de la phrase, de la descendance de David et Abraham. Et en fait, littéralement, pareil, il est écrit fils de David. C'est pas de la descendance, c'est fils de David et fils d'Abraham. Abraham, bien sûr, le premier, le fondateur du peuple d'Israël, le fondateur du peuple hébreu. Et puis David, donc Jésus, voilà, apparaît là comme ce nouveau fondateur du nouveau peuple d'Israël, bien sûr avec Israël, les Juifs premièrement, mais bien sûr chacun d'entre nous, si vous n'êtes pas juif dans la salle, qui sommes ajoutés à ce peuple. Et vous savez qu'il y a cette fameuse Genèse 22, il y a cette fameuse promesse qui est faite à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Jésus est la postérité d'Abraham dans laquelle toutes les nations de la terre, c'est nous aussi, sommes bénis. Amen. Mais il est aussi écrit pardon, qu'il est fils de David. David est vraiment le grand roi d'Israël par excellence. C'est le modèle de roi d'Israël toujours cité par les Juifs en exemple et comme repère. Il n'a pas fait que des bonnes choses. Et du coup, Jésus est aussi, il est appelé fils de David. Ça veut dire qu'il est héritier des promesses faite à David. De Samuel 7,16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Bien après la mort du roi David, le grand roi David, son trône sera affermi pour l'éternité en Jésus. Amen. C'est fort hein, de réaliser tout ça. Et du coup, juste relever quelque chose qui sont marquantes dans cette généalogie. Premièrement, donc vous la lirez chez vous, hein, lisez-la chez vous. Donc Matthieu, premièrement, quand on regarde cette généalogie, on voit qu'il y a des types de personnes très différents. Il y a des personnes qui ont bien agi dans l'ascendance de Jésus, mais il y a aussi des personnes qui ont fait de très grosses bêtises. Donc vous avez des rois, par exemple, donc des rois qui ont très bien agi, mais vous avez aussi des mauvais rois, Joab, Ahaz, etc., qui ont vraiment péché contre Dieu alors qu'ils étaient roi. Et puis bien sûr on y retrouve, vous le savez, le célèbre David dont on vient de parler, qui a très très bien commencé mais qui a ensuite commis de graves péchés avant bien sûr d'être restauré par Dieu. Et puis son fils Salomon, pareil, un règne extraordinaire, glorieux, tellement inspirant, mais qui a fini beaucoup plus difficilement aussi, loin de Dieu. Donc en gros, je ne vous les fais pas tous, mais vous avez des gens vraiment très différents. Et vous avez des gens qui ont bien fait comme des gens qui ont péché incroyablement. Ça, c'est la généalogie de Jésus. Mais Jésus se plaît à vouloir que ces personnes-là soient dans sa famille. Pourquoi ? Ça montre qu'il est un sauveur pour tous, il est un sauveur accessible à tous, ça montre qu'il n'a pas honte de ses origines. Et on verra après pourquoi c'est aussi très important. Dans cette généalogie aussi, on trouve cinq femmes. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et bien sûr Marie. Et c'est incroyable, pardon ? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait dit quelque chose. C'est incroyable de réaliser que ces trois femmes, de la même manière, déjà ce sont des femmes. Donc d'habitude dans les généalogies hébraïques, il n'y avait jamais de femmes. Là, il y a ces cinq femmes qui sont vraiment mentionnées et c'est pas anodin. Dieu n'est pas que le Dieu des hommes. La société juive était une société hautement patriarcale. Mais Jésus veut démontrer qu'il n'est pas le Dieu que des hommes. Il est aussi le Dieu des femmes. Dans ces femmes, il y en a au moins trois qui étaient étrangères. Jésus veut qu'il y ait des étrangers dans sa généalogie. Dans ces femmes, il y en a qui étaient des prostituées. Il y en a qui étaient Rahab, bien sûr. Il y en a qui, voilà, il y a des histoires un peu. Si vous connaissez l'histoire de Tamar, c'est assez curieux comme histoire. Mais pareil, Jésus se plaît à ce que Tamar soit dans sa généalogie. Il est le Dieu de tous les êtres humains. Il est le Messie de la terre entière. Amen. Et enfin, dans cette généalogie, ce qui m'a marqué, c'est que, donc en fait, il y a trois fois 14 générations, quand vous lisez, c'est bien, bien expliqué. Et forcément, à chaque génération, vous avez, même s'il y a le nom de certaines femmes, il y a le nom à chaque fois de l'homme, parce que c'est l'homme, c'est, à chaque fois c'est fils d'eux, etc. Mais il manque un homme. Il manque un homme dans cette généalogie. Qui c'est qui. C'est que des géniteurs biologiques, on va dire, dans ces généalogies, mais il en manque un. À la fin, petit indice, quel est l'homme, quel est le père biologique qui manque à la fin? Joseph? Ah ben non, Joseph, il est écrit, mais est-ce que Joseph est le père biologique de Jésus? Et non. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'à la fin, bien sûr, la troisième série de 14 ne se conclut pas avec un homme. C'est que le père biologique de Jésus n'est pas un homme. Le père biologique de Jésus est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Et ça, pour avancer, vous savez, ce plan qu'on aime beaucoup par rapport au groupe de découverte et tout, pour étudier la Bible très simplement, qu'est-ce que Matthieu 1 nous dit sur Dieu? Qu'est-ce que Matthieu 1 nous dit sur les hommes? Comment on peut mettre ça en pratique? Donc, qu'est-ce que Matthieu 1... excusez-moi, juste pour vous résumer, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 1 après la généalogie? Jésus naît, évidemment, Hérode est très énervé, on lui parle d'un roi qui est né, etc. Du coup, il fuit en Égypte avec ses parents. Et puis, quand Hérode meurt, etc., un peu plus tard, ils reviennent et ils vont s'installer en Galilée, à Nazareth. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir sur Dieu? Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu, ce Matthieu 1? Eh bien, il nous est dit que Dieu, et c'est ce que l'ange dit à Joseph dans le rêve, Emmanuel. Jésus est aussi appelé Emmanuel. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avec nous. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que le père biologique, si on peut parler comme ça, de Jésus est le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est sans cesse avec nous. Sans cesse avec nous. Et du coup, Dieu, en envoyant son fils naissant comme ça sur la terre, il nous montre déjà qu'il veut toujours être avec nous, comme il nous le dit après tellement souvent dans le reste de sa parole. Jésus n'a pas peur du péché, on l'a vu déjà dans son ascendance. Mais Jésus n'a pas peur, il vient naître dans une mangeoire, dans la saleté d'une étable. Il n'a pas peur du péché. Et il y a ce verset, je pense que vous connaissez bien, dans Hébreux 4, que j'aime beaucoup. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc Jésus, il est comme nous. Jésus, il est comme nous. Sa famille est une famille compliquée, comme beaucoup au milieu de nous, ici, je pense. Jésus, il est comme nous. Il sait exactement ce que c'est que de vivre en tant qu'homme sur la terre. Mais du coup, il est aussi celui qui peut nous racheter, nous faire sortir de l'esclavage. Amen, parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Donc Jésus est Emmanuel, Dieu est Emmanuel. Ensuite Jésus est envoyé pour être notre sauveur. Verset 21, elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est là, vous savez qu'est-ce que veut dire le mot Jésus, Yeshua en hébreu? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu sauve, l'Éternel sauve. Et du coup, Jésus est notre sauveur. C'est même la signification de son nom. Et en fait, vous savez qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne le connaisse pas, on a tous besoin d'un sauveur. Le plus grand péché de l'homme en permanence, tout le temps, c'est de se croire autosuffisant. Et on est, nous aussi, en Occident, dans cette culture, avec ce siècle des Lumières, etc., où on croit qu'on est au centre. Non, c'est un mensonge. Nous avons besoin d'un sauveur extérieur à nous, qui est venu dans le monde. Et son nom est Jésus, Dieu sauve. Amen. Et enfin, par rapport à Dieu, ce que j'ai souligné, il y aurait plein d'autres choses évidemment, c'est que Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Pareil, dans son ascendance, voilà, je vous ai dit, il y a des gens qui ont fait des choses terribles. C'est comme si l'ennemi essayait de s'acharner sur cette lignée familiale pour empêcher la naissance de ce Messie. Mais, et ça c'est un verset, c'est Joseph qui dit ça, dans l'autre Joseph, dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez, et bien sûr il parle à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Et nous savons que Joseph est une figure de Christ, un type de Christ. Et Dieu, c'est une réalité. Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Nous avons tous dans nos vies des circonstances, parfois il nous arrive des choses pas possibles, dans nos familles, autour de nous, des circonstances. Les infos en ce moment, vous regardez, mais il se passe tellement de catastrophes. Sauf que Dieu est au-dessus de tout ça. Il est capable de transformer même les pires atrocités pour sa volonté, pour la bénédiction du monde. Amen. Et ça, n'essayons pas de le comprendre, les amis. C'est incompréhensible. Ça, c'est le mystère de la souveraineté de Dieu. Mais comme on se met souvent à la place de Dieu, on croit pouvoir comprendre. Du coup, même des fois, on invente des théologies à dormir debout pour justifier ça. N'essayons pas de justifier ça. C'est le mystère de la souveraineté et de l'amour de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant dans ce passage sur les hommes ? Comme je vous ai dit, l'histoire de Jésus, c'est notre histoire. Et je suis sûr qu'on est plein à avoir des familles où il y a des histoires compliquées. Mais Dieu a cette capacité de restaurer ta famille. Vous savez, moi j'ai vécu ça il y a quelques années. Je faisais pas mal d'entretiens, le sozo pour ceux qui connaissent. En gros, c'est des entretiens où on laisse le Saint-Esprit venir nous parler pour nous guérir de traumatismes. Et moi, il y a une époque où je me suis rendu vraiment compte qu'il y avait beaucoup de divorces dans ma famille. Et vous savez, c'est compliqué, mais très proche de moi, hein, par ma famille immédiate. Et en fait, c'est très difficile parce que quand il y a des choses comme ça qui se passent dans votre famille tout de suite autour de vous, et que en plus, par exemple, ça peut être votre actualité dans votre famille, dans vos frères et sœurs, etc. Ou alors, et puis moi, il se trouve qu'il y a eu des moments à cette période où c'était compliqué avec Emmanuel. Tout couple, on passe par des hauts et des bas. Et s'il y a des, vous savez, il y a des périodes comme ça où dans le couple, ça peut être un peu, il peut y avoir de la tension. Et en fait, l'ennemi vient et il se dit, mais regarde, lui dans ta famille, il a divorcé. Elle dans ta famille, elle a divorcé. Lui, très proche de toi, il a divorcé. Regarde comment ça se passe dans ton couple en ce moment. Et vous voyez le mensonge qui arrive. En fait, c'est inéluctable. Ma famille est en proie au divorce et moi aussi, je vais peut-être divorcer. Et ça, c'est l'ennemi se sert de choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de réaliser que peu importe ce qui s'est passé dans notre famille, dans les générations passées, grâce à Jésus, tout peut être restauré, tout peut repartir à zéro. Et aujourd'hui, notre couple avec Emmanuel est hyper solide. Aussi parce que Dieu nous a libérés. On s'est rendu vraiment vulnérables pour que Dieu vienne travailler nos cœurs, briser ce qui avait besoin d'être brisé de générationnel, mais aussi nous travailler dans notre cœur avec Dieu. Et il n'y a pas de fatalité en fait avec Jésus. C'est ça qui est énorme avec lui. Il n'y a aucune fatalité. Amen. Que vraiment ça résonne dans nos cœurs et nos esprits ce matin. Il n'y a pas de fatalité. Peu importe là où tu en es. Tu es peut-être toi, mon frère, ma sœur. Je sais que des gens souffrent dans notre église, les amis. Et je sais que c'est très très dur. Mais entendons-le chacun et disons-nous-le les uns aux autres aussi régulièrement. Il n'y a pas de fatalité avec Jésus. Tout est possible. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Il peut restaurer ta famille. Il va restaurer ta famille et il va te guérir. Amen. Ce n'est pas du triomphalisme. C'est la nature de Dieu que de sauver. Amen. Et de restaurer. Donc les hommes, voilà, l'histoire de Jésus est notre histoire, et puis qu'on a tous besoin d'un sauveur. Je vous l'ai dit, il y a cette citation de Blaise Pascal qui est tellement géniale. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Et c'est la réalité, les amis. Il y a un vide que rien d'autre que lui ne peut remplir. Rien d'autre que lui ne peut remplir. Et je pense que beaucoup parmi nous, on ressent des vides. Et ce vide, il peut prendre plusieurs formes différentes. Ça peut être le péché et toutes ses conséquences dans nos vies. Vraiment le péché, quand on fait des erreurs, quand on manque la cible, quand on fait ce qui déplaît à Dieu, par manque de foi, par manque de confiance, par fragilité. Et à la fin, ça nous amène bien sûr, le salaire du péché, c'est la mort. Donc si on a des péchés, des choses qui résistent comme ça dans notre vie, on a besoin du sauveur, besoin de libération. Ça peut être aussi la loi. C'est pour ça qu'on est assis par terre ce matin, les amis. C'est qu'on est très bon, surtout en tant qu'évangélique, pour dire oui, nous, on n'est pas légaliste, etc. Mon œil, oui. Qu'est-ce qu'on est rapide à remettre des règles, remettre des lois, remettre des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et ça me fait mal de dire ça, parce que moi, j'aime bien quand les choses sont ordonnées, donc je prends beaucoup sur moi. Sachez-le, les amis, si j'étais assis par terre, je pense que ce serait dur pour moi aussi. Je me sentirais un peu... Voilà. Mais ce n'est pas grave, on grandit tous. On apprend. Donc, il y a cette loi, il y a cette performance. Il y a cette, c'est ça, c'est vraiment d'essayer de mériter l'amour de Dieu par nos actions. C'est ça, la loi. C'est que j'essaye parce que je fais de mériter l'amour de Dieu. Et on a besoin, c'est quoi l'antidote à ça? C'est l'adoption. C'est de recevoir cet esprit d'adoption en nous qui crie « Abba, Papa ». Amen. Il y a, ça peut être aussi la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? Vous savez, il y a deux forces, il y a deux énormes forces qui s'opposent dans l'univers. C'est la peur et l'amour. Et le remède à l'antidote à la peur, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. On a besoin, quand on est conduit par la peur, qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de bons conseils. On a besoin de l'amour du Père dans nos cœurs. Amen. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Amen. Et ça peut être enfin le regard des autres. Ça paraît, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on est bon pour porter des masques. Les amis, je vous promets, je me mets dedans, on parle tout le temps d'authenticité comme une des valeurs qu'on veut développer dans cette église. Mais qu'est-ce qu'on est bon pour porter ce masque du dimanche matin. Oui, mon frère, tout va bien. Oui, mon frère, ça va. Oui, mon frère. Ou alors de ne pas se confier. Encore une fois, on a des péchés dans nos cœurs, on a des fragilités, ça peut être des addictions, des choses comme ça. On n'en parle pas. On garde ça bien caché. Pas intentionnellement, mais parce que c'est dur d'en parler. C'est dur de le sortir. Et ça, c'est parce qu'on a cette crainte des autres, crainte du regard de l'autre. Et quelle est l'antidote à ça? C'est vraiment d'être affermi dans notre identité en Christ. C'est que peu importe le regard de mon voisin, de mon frère, de ma sœur, je sais que je suis aimé de Dieu. Et rien, c'était énorme, parce qu'à la fin de la louange, au début, je voulais lire ce verset de Romains 8, et bon, finalement, ça s'est fait autrement, et d'un coup, Mathias a sorti sa Bible et a lu exactement ce verset que je voulais lire. Et je pense que ce n'est pas anodin, c'est un verset pour ce matin. Mon frère, ma sœur, rien ne peut, rien, ni ta situation familiale, ni ton ascendance, ni les péchés que tu as commis ou tu es peut-être en train de commettre en ce moment, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Donc, pour finir, comment, vous allez me dire, ben super Mathieu, ça fait du bien de nous rappeler, tu as écrit un super livre Mathieu, merci de nous rappeler ces vérités sur Jésus, mais concrètement, comment faire? Eh bien, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, mais très simplement, être disciple, hein, les amis, c'est ça qu'on veut. On veut être des disciples. On veut se multiplier et nous-mêmes faire des disciples. Donc, être disciple, c'est grandir dans le fait d'apprendre à vivre comme Jésus, d'apprendre à vivre comme Jésus, comme les douze. Eh bien, Joseph n'a pas cru Marie. Joseph, le futur mari de Marie, ils étaient fiancés, ils vivaient ensemble, mais enfin, ils ne vivaient pas encore ensemble au moment où ils étaient fiancés, mais d'un coup, il se retrouve qu'elle est enceinte. Oui, c'est le Saint-Esprit, pardon. oui, je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Tu peux l'appeler Saint-Esprit, tu es sûr qu'il n'a pas un autre prénom. Enfin bon, il ne l'a pas cru. Les amis, on a besoin de grandir dans notre foi. Et il n'y a pas meilleur moyen de grandir dans notre foi que de la mettre à l'épreuve. Il faut nourrir notre foi, bien sûr, hein, mais il faut aussi, pour qu'elle devienne vivante en nous, la mettre à l'épreuve. Donc moi, je t'invite, mon ami, cette semaine, à qui vas-tu parler de Jésus? De qui tu te retiens? De qui tu as eu peur de parler de Jésus? Alors, parce que j'ai écouté un autre message d'Héloïse aussi qu'elle a fait cet été quand j'étais pas bien, et elle nous rappelait quelque chose qui était très très important, c'est que parler c'est bien, mais des fois il ne faut pas parler. Pour qui cette semaine tu vas être Jésus dans ton entourage, dans tes collègues de boulot, dans tes amis, dans les familles que tu connais, à la piscine de tes enfants, à droite ou à gauche? Pour qui cette semaine tu vas être Jésus? Dans quel domaine aussi, pour mettre en pratique, soyons concrets, dans quel domaine aujourd'hui tu te sens esclave? Peut-être que tu as une addiction, peut-être que tu es accro à une substance, peut-être que tu es accro à un comportement. Il y a des choses, tu le sais, le Saint-Esprit nous parle. Je ne suis pas là pour mettre la pression à qui que ce soit, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Mais de quoi es-tu esclave aujourd'hui? Mon ami, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Le Sauveur est là, il veut te délivrer. Des fois, ça se passe en un instant. Mais des fois, c'est un parcours. Moi, vous savez, je vous ai souvent raconté mon histoire par rapport à la nourriture. C'est un parcours. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive d'avoir des moments plus difficiles. Mais on ne baisse pas les bras. On sait que Dieu est notre libérateur. On l'a chanté ce matin. Donc, on ne lâche pas. On est en guerre. Et puis, des fois, tac, ça part. Et d'un coup, vous êtes totalement délivré, comme je l'ai vécu. Et c'est extraordinaire. Amen. Donc, ça, trouve quelqu'un à la fin de ce culte, cette semaine, appelle quelqu'un, confie-toi à quelqu'un de confiance, tu ne dis pas ça à tout le monde, tu dis à une personne pour prier, pour déclarer, dès que tu sors cette chose-là, elle est mise à la lumière, et tout ce qui est à la lumière comme ça, quand on est en communion avec les autres, bam, Dieu peut agir. Amen. Et enfin, vraiment enfin, pas de fatalité. Voilà, je vous ai déjà raconté mon histoire par rapport à cette peur du divorce. Les amis, il n'y a pas de fatalité. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta famille, ce n'est pas jojo, c'est difficile. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui se répètent. Et je t'invite vraiment à te confier à Dieu par rapport à ça. Et vraiment aller aussi dans ce qu'on dit souvent, d'aller dans l'esprit opposé. L'esprit opposé, ça veut dire que si on t'envoie du rejet, si on t'envoie des insultes, si on t'envoie aime, proclame la vie déjà quand tu n'es pas avec les personnes, mais fais preuve d'amour avec ces personnes, fais preuve de patience et puis bien sûr remets ça à Dieu, mais surtout ne crois pas qu'il y a une fatalité avec Dieu parce que ça n'est pas vrai. Amen. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus, il est midi 5, il faut aller chercher nos enfants. Mais si tu es dans une braise, les braises, je vous invite vraiment à revenir là-dessus pour pouvoir vraiment mettre en pratique ce premier message de l'évangile de Matthieu. Si tu n'es pas dans une braise, je t'invite à rejoindre une braise. C'est la maturité du chrétien que de se regrouper régulièrement avec d'autres pour aller vraiment creuser ça et pour aller devenir des disciples. Hein. Apprendre à vivre comme Jésus, c'est un apprentissage et c'est les uns avec les autres qu'on apprend le mieux. Amen. On peut se lever, clôturer par la prière ?